De l'écriture à la bombe atomique, les grandes inventions et découvertes jalonnent l'histoire, changent la vie quotidienne des hommes, bousculent les croyances et font avancer les connaissances. À bord de l'Odysseus, nous allons voyager à travers le temps et l'histoire pour découvrir ou redécouvrir les inventions et découvertes qui ont façonné la société humaine et son environnement. Je suis Erwan, capitaine de bord de l'Odysseus. Installez-vous et laissez-vous porter à travers le temps, tandis que je vous propose un peu de musique, le temps, que vous preniez place.
Ils enverront la guerre pour terroriser le sud. Ils reverront les terroristes pour exploser le nord. C'est un mariage dangereux qui ne vit que dans le pire. Comme un couple qui se déchire, mais tous disent que Dieu le veut. Qui porte les coups bas, qui supporte ce combat. Je suis pas formé pour ça, je voudrais vivre dans la joie. Ils ont mis au point leur bombe nucléaire pour se protéger des hommes et des enfers. Comme si les frontières n'appartenaient qu'à vous et à ces gens-là qui marchent au garde à vous. Tu ne tueras point, c'est ce qu'ils disaient hier. Au nom de quelle religion on assassine et on est fier. Un tyran reste un tyran, de Bagdad à Washington. Qu'il hurle au nom de Dieu sur la Bible, qu'il chantonne les louanges d'une vie meilleure, qu'il détruise jour après jour. Je connais pas ses convictions, on massacre par amour. Je ne ferai plus de différence entre tueur et terreur, entre la peur, la rancœur, leur seule vie c'est la mort. Ils ont mis au point leur bombe nucléaire pour se protéger des hommes et des enfers. Comme si les frontières n'appartenaient qu'à vous et à ces gens-là qui marchent au garde à vous. Nous sommes les otages de ce joli monde moderne. Par la folie de nos hommes, nos drapeaux sont en berne. La richesse s'est payée, le soutien de leur sagesse. Et la presse, qu'en dit-elle de nos cerveaux qu'on oppresse? À vivre en bon à rien, défenseur des polémiques, où l'on vend le terrorisme comme une bonne vieille paire de Nike. Aurait marché dans la merde et on se demande pourquoi ça pue. Si t'as marché sur une bombe, te demande pas pourquoi ça tue. Ça tue. Ça tue, ça tue, ça tue. Ils ont mis au point leur bombe terroriste pour se partager les hommes et les enfers. Comme si les frontières n'appartenaient qu'à vous et à ces gens-là qui marchent au garde à vous. Ils ont mis au point leur bombe nucléaire pour se protéger des hommes et des enfers. Comme si les frontières n'appartenaient qu'à vous et à ces gens-là qui marchent au garde à vous.
Vous êtes toujours sur Radioactive 101.9 FM, à bord de l'Odysseus. L'histoire de l'énergie nucléaire débute par hasard le 1er mars 1896. Depuis quelque temps, Henri Becquerel, sur la suggestion d'Henri Poincaré, étudie la fluorescence de certains corps. Il a placé une plaque photographique enveloppée de papier noir près d'un sel de sulfate d'uranium supposé fluorescent, c'est-à-dire émetteur de rayons X lorsqu'il est soumis à la lumière du soleil. En somme, le sulfate d'uranium exposé au soleil se charge d'énergie lumineuse puis est susceptible de la restituer sous forme d'ondes. Dans le domaine des rayons X, ce jour-là, le 1er mars 1896, Becquerel découvre que le noircissement de la plaque photo se produit même lorsque le sel n'a pas été exposé à la lumière solaire. Il n'est donc pas fluorescent. L'uranium et ses composés émettent par eux-mêmes des rayons particuliers. On les appellera provisoirement rayons uraniques. Dès lors, chaque année apporte son lot de découvertes. 1899, Ernest Rutherford identifie trois types de rayonnement qu'il dénommera alpha, bêta et gamma. En 1900, Marie Curie découvre un autre corps ayant les mêmes propriétés d'émettre des rayonnements, c'est le radium. Elle en évalue approximativement la masse atomique et invente le mot radioactivité. Avec son mari Pierre Curie et Henri Becquerel, elle reçoit deux prix Nobel, en 1903 pour avoir découvert la radioactivité naturelle, puis en 1911 pour avoir déterminé la masse atomique du radium. En 1913, Niels Bohr applique sa théorie des quantas à l'atome d'hydrogène. Et entre cette même année et 1928, l'école de Copenhague, sous la conduite de Niels Bohr, pose les bases de la mécanique quantique. Paul Dirac, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger et Werner Heisenberg s'illustrent dans l'établissement de cette théorie, la compréhension de l'atome et l'explication de la radioactivité. En 1932, James Chadwick établit l'existence du neutron. Le noyau des atomes prend sa représentation actuelle sous la forme d'un assemblage de protons et de neutrons autour duquel gravitent des électrons. À partir de 1934, le neutron, de sa neutralité électrique, devient le projectile de choix pour bombarder tout type d'éléments. En particulier, l'astucieux Enrico Fermi, à Rome, bombarde avec des neutrons de neutron, le dernier élément naturel connu du tableau de Mendeleïev, donc le plus lourd, l'uranium. En espérant trouver de nouveaux corps, des transuraniens, mais il tombe sur un résultat parfaitement incompréhensible. Il faut attendre 1938 pour commencer à démêler la vérité et comprendre ses expériences de bombardement de l'uranium par des neutrons. Cet été-là, Irène Curie et Frédéric Joliot mettent en évidence, parmi les produits formés dans l'uranium bombardé, un corps de période 3,5 heures semblant avoir toutes les propriétés chimiques du lanthane. Mais que ferait-il donc là? Ils sont très près de la vérité mais n'osent pas la publier. En décembre de la même année, Otto Hahn découvre, lui, du barium dans l'uranium bombardé. Il ose alors affirmer que le noyau s'est cassé. Il a découvert la fission génératrice d'une quantité d'énergie extraordinaire. L'année suivante, en 1939, Frédéric Joliot, Hans Alban et Hugh Kowarski, au Collège de France, mettent en évidence, outre les produits de fission et une grande quantité d'énergie, la production de deux ou trois neutrons de haute énergie dans la fission de l'uranium. Ils imaginent la possibilité d'une réaction en chaîne et prennent trois brevets fondamentaux déposés au nom du Centre National de Recherche Scientifique, le CNRS. Ces brevets, très complets, sont encore consultables au Commissariat à l'énergie atomique, le CEA. Ils fournissent toutes les indications pour réaliser un réacteur nucléaire. Jamais ces brevets ne seront respectés par les États-Unis qui, avec la Deuxième Guerre mondiale, vont devenir les maîtres de la recherche et de l'exploitation de l'énergie nucléaire. Le 2 août 1939, sur la demande de Léo Szilard, et Eugène Wigner, physicien d'origine hongroise, il redoutait que l'Allemagne nazie se dote d'une bombe atomique. Albert Einstein écrit au président Roosevelt pour attirer son attention sur la nouvelle source d'énergie que représente l'uranium et sur la possibilité de construire une bombe. Sans tarder, d'octobre 1939 à juin 1942, sont mises en place les installations nécessaires pour aboutir à la construction de l'arme atomique. Ce sera le fameux projet Manhattan, dirigé par le général Leslie Richard Groove et le physicien Robert Oppenheimer. Les États-Unis y mettent les moyens. Trois projets parallèles de séparation isotopique voient le jour à l'été 1942. La méthode de diffusion gazeuse, finalement jugée la plus prometteuse, sera industriellement développée au centre de Oak Ridge, dans le Tennessee, où la construction de l'usine démarre fin 1942. Au même moment, précisément le 2 décembre 1942, Enrico Fermi fait diverger la première pile atomique à uranium naturel modéré au graphite. Cela se passe sous les tribunes du stade de Chicago, dont on garde la célèbre photo qui réunit près de l'empilement de graphite la fine fleur de la physique américaine de l'époque. Enrico Fermi, Eugene Wigner, Arthur Compton et quelques autres. Tandis que sur le sommet de l'empilement, un homme est prêt à trancher avec une hache la corde qui libérera la barre de sécurité, au cas où. Tous les physiciens, en effet, ignorent totalement la vitesse à laquelle la divergence va se développer, car ils savent que la durée de vie moyenne d'une génération de neutrons est de l'ordre du dixième de milliseconde. Avec ces seuls neutrons dits prompts, la réaction ne peut que s'emballer et conduire à un flash dangereux. Heureusement, la nature a bien fait les choses. Dans chaque génération de neutrons, des neutrons que l'on appelle retardés permettent de contrôler la réaction. Enrico Fermi le sait plus ou moins, mais il n'est pas sûr de lui et a pris ses précautions. Une nouvelle étape est franchie en mars 1943 avec l'arrivée à Los Alamos de Robert Oppenheimer et d'un groupe de physiciens chargés d'effectuer les recherches sur la criticité de l'uranium et du plutonium. Ce dernier étant fourni par les énormes piles à graphite construites en un temps record à Hanford. Les résultats de ces travaux sont les mises au point d'abord d'une première bombe testée à Alamogordo, puis les deux autres, Little Boy en uranium enrichi et Fat Man au plutonium, largués au-dessus du Japon. Peu glorieux, cet acte a néanmoins contribué à l'arrêt de la guerre et probablement à empêcher un troisième conflit mondial. En 1944, les physiciens français sont non grata aux États-Unis. Une équipe constituée de Bertrand Goldschmidt, Jules Guéron, Hans Alban et Ab et Pierre Auger, qui travaillent à Chalk River au Canada, bénéficient néanmoins d'indiscrétions qui la tiennent au courant des travaux américains. Elle en informe le général de Gaulle lors de sa visite à Ottawa en septembre 1944. Ayant parfaitement compris l'importance et la nécessité de développer l'énergie nucléaire en France, ce dernier, après la libération, créera le 18 octobre 1945 le commissariat à l'énergie atomique, dont l'installation commence dès mars 1946 au fort de Châtillon, sous la houlette de Joliot-Curie. Le 15 décembre 1948, à 12h12, la pile Zoé, pour zéro énergie, diverge pour la première fois. êtes toujours sur Radioactive 101.9 FM, à bord de l'Odysseus. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique du Nord a tenu la suprématie de la guerre. Son potentiel atomique était considérable. La complexité de l'énergie nucléaire civile et militaire exigeait que les règles et des lois soient établies. En 1944, le général de Gaulle avait la conviction que grâce à lui, la France pouvait retrouver son statut de grande puissance à la table des négociations. Le CEA est créé en octobre 1945. L'objectif était de poursuivre les recherches scientifiques et techniques en vue de l'utilisation de l'énergie atomique dans les divers domaines. En 1946, les États-Unis ont présenté un plan aux Nations Unies. Les États-Unis ont proposé de renoncer à toutes les informations en échange d'un contrôle et d'une inspection internationaux. L'ancienne Union soviétique s'y est opposée et ce fut un échec. En même temps, les soviétiques développent la bombe H. La capacité destructrice de cette bombe était bien plus grande. La bombe H combine des noyaux d'uranium avec la fusion nucléaire. La bombe était prête au début de 1952. Sa puissance s'est avérée être 700 fois supérieure à celle de la bombe atomique d'Hiroshima. Dans l'intention d'atténuer cette situation, une série de conférences internationales à caractère technique ont été organisées sur les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. À cette occasion, les pourparlers entre pays développés à fort potentiel atomique ont été un franc succès. Profitant de la nouvelle situation, le président américain Eisenhower a ensuite présenté son programme de coopération internationale, Atom for Peace, aux Nations Unies. À partir de ce programme, une série de connaissances scientifiques et technologiques a été libérée qui permettrait l'exploitation commerciale ultérieure de l'énergie nucléaire. Le discours proposait un accord entre les grandes puissances pour arrêter et réduire la fabrication d'armes nucléaires. De plus, la création d'organismes de régulation a été favorisée. Cependant, des pays comme le Royaume-Uni et l'ex-Union soviétique avaient déjà commencé leurs recherches visant le déploiement commercial de l'énergie nucléaire. L'objectif était d'obtenir de l'énergie électrique en utilisant la puissance d'un réacteur nucléaire. En 1967, l'AIEA a organisé un groupe pour analyser tous les problèmes techniques concernant l'énergie nucléaire. Le résultat était de traiter la non-prolifération nucléaire qui entrerait en vigueur en 1972. Les pays signataires ont accepté de ne pas transférer d'armes nucléaires ni de collaborer à leur fabrication. Avec l'accord, ils se sont engagés à établir des garanties nécessaires à leur respect. Le développement de l'énergie nucléaire a toujours été favorisé par l'intérêt suscité par la production d'électricité à partir de cette source d'énergie. Au cours des années 60 et 70, divers programmes nucléaires ont été lancés dans divers pays. Aujourd'hui, plus de 450 réacteurs nucléaires ont été mis en place dans le monde. La plupart sont des réacteurs à eau pressurisée et des réacteurs à eau bouillante. Leur vie moyenne est estimée entre 30 et 40 ans. Donc, la question du démantèlement devient tangible à la fin des années 90. Au début des années 2000, l'industrie nucléaire s'attendait à une renaissance nucléaire. Ce développement était en raison des inquiétudes concernant les émissions de dioxyde de carbone. En 2018, une étude du MIT Energy Initiative a conclu que pour qu'une renaissance mondiale commence, il faut une normalisation des réglementations. En plus, il est nécessaire une évolution vers la fabrication en série d'unités standardisées. À l'heure actuelle, il est courant pour chaque pays d'exiger des modifications de la conception pour satisfaire les divers organismes de réglementation nationaux. En 2017, seuls 4 réacteurs ont été mis en service, 3 ont été arrêtés. Bien que le nucléaire produise peu d'impact carbone en faisant l'une des sources d'énergie les plus propres, il n'en reste pas moins le danger initial des réacteurs, mais surtout la question des déchets radioactifs. Le concept même des piles nucléaires n'est pas nouveau. Celles-ci sont déjà utilisées depuis de nombreuses années pour des missions spatiales éloignées. Dans les années 70 également, une variante plus petite a servi pour les pacemakers implantés dans le corps humain. Actuellement, des micro-piles nucléaires sont disponibles dans les commerces aux États-Unis. Elles durent 20 fois plus longtemps que les piles classiques grâce au rayonnement radioactif du tritium. La technologie a entre-temps su évoluer, offrant de nombreuses applications, comme nous le verrons plus loin. Leur premier atout, c'est leur durée de vie astronomique. Elle est de l'ordre de milliers d'années. Les piles nucléaires sont particulièrement intéressantes pour les endroits difficiles d'accès. Par exemple, dans les instruments de mesure en recherche sous-marine, dans l'espace ou dans les implants médicaux. En outre, leur petite dimension est également appréciée pour les endroits exigus, notamment dans les mini-processeurs et les MES, les Microelectronic Mechanical Systems. Ne serait-il pas aussi idéal d'en avoir dans un smartphone qui serait chargé à vie ? Cette technologie révolutionnaire pourra servir à une telle multitude d'applications que nous ne pouvons même pas encore toutes les imaginer. Leur robustesse est un énorme atout. Contrairement aux piles classiques, les piles nucléaires ne sont pas sensibles aux conditions extrêmes, aux températures jusqu'à 700 degrés, humidité élevée et environnement corrosif. Encapsulés dans les règles de l'art, les éléments radioactifs restent efficaces en toute sécurité. L'idée de départ, utiliser les déchets radioactifs pour développer un faible courant électrique que le diamant est capable de conduire. L'avantage est de taille puisqu'une pile nucléaire pourrait générer de l'électricité propre pendant des milliers d'années et sans le moindre danger puisque la radioactivité est encapsulée dans le diamant, le matériau le plus dur connu à ce jour. La recherche menée à l'université de Bristol par le professeur Tom Scott et son équipe de 12 chercheurs se concentre sur des piles plus petites, plus efficaces, plus sûres et plus économiques. Étant donné que la puissance d'une pile nucléaire réside dans sa densité d'énergie, elle doit impérativement être de petite dimension. On parle ici en millimètres. L'énergie d'une pile, en diamant, provient des déchets radioactifs du carbone 14. En encapsulant ce matériel dans un diamant artificiel, on provoque une cascade d'électrons qui génère un courant électrique. Le rayonnement radioactif est absorbé par le diamant, ce qui est un gage de sûreté. Parmi les substances radioactives, le carbone 14 est un bon candidat pour fabriquer des piles. Ce dernier émet uniquement des rayons bêta. Ceux-ci génèrent beaucoup d'énergie et peuvent facilement être absorbés par le diamant. Les autres éléments radioactifs, quant à eux, émettent souvent des rayons gamma, en plus des rayons bêta, ce qui implique une barrière de protection plus importante et de là, une augmentation de la dimension de la pile et une réduction de son efficacité. Les diamants utilisés pour cette technologie sont synthétiques. À la différence des diamants utilisés en bijouterie, ils sont fabriqués avec différentes couches de cristaux. Une pile en diamant fournit 15 joules d'énergie par gramme, cela correspond environ aux 50e de l'énergie fournie par une pile standard. Mais la pile en diamant fonctionnera pendant 7746 ans avant que le courant produit ne soit diminué de moitié. En outre, grâce à ses dimensions minuscules, 10 mm par 10 mm par 0,5 mm, elle donnera lieu à un tas d'applications. Deux prototypes de piles en diamant ont déjà été développés. Actuellement, les chercheurs se penchent sur les versions plus complexes et plus efficaces. On étudie notamment la possibilité de générer plus de courant en juxtaposant plusieurs piles, comme c'est déjà le cas pour les piles classiques. Les fabricants de smartphones, par exemple, montrent un vif intérêt pour l'utilisation de piles nucléaires. C'est l'extraction du gaz issu des déchets nucléaires qui constitue le coût le plus important dans le développement des piles nucléaires. Mais étant donné que le carbone 14 provient des déchets radioactifs, le projet est financièrement intéressant en soi. Grâce à la réduction du coût de stockage des déchets, la pile en diamant sera certainement une solution rentable et l'avenir de l'énergie. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers le temps. Comme toujours, vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur radioactive.com ou sur la page Facebook de l'émission. C'était Erwan, capitaine de bord de l'Odysseus. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Standing on the edge of the crater, like the prophets once said, and the ashes are all cold now. No more bullets, and the embers are dead. Whispers in the air tell the tales of the brothers gone. Desolation, devastation. What a mess we made when it all went wrong. Watching from the edge of the circus for the games to begin.
gladiators draw.